carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en compagnie de Hugues Gall pendant cette prochaine heure. Monsieur Gall, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir convié.
Je rappelle que vous êtes donc membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis bientôt 3 ans, que vous présidez le conseil d'administration de l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles et que vous êtes conseiller d'État. D'abord une petite précision, qu'est-ce que c'est que cet Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles?
C'est un rouage essentiel dans l'organisation qui s'est mise en place maintenant depuis une trentaine d'années et qui favorise la production de, essentiellement de l'industrie cinématographique et des productions de films. Et puis, subsidiairement, et nous veillons d'ailleurs à élargir notre champ d'action aux industries dites culturelles qui vont l'édition, un certain nombre de salles de théâtre, etc., peuvent faire appel à nous. Alors, en quoi sommes-nous utiles? Eh bien, nous sommes un fonds de garantie, qui est un fonds de garantie auquel contribue l'État et des financements privés, des banques, qui sont membres du conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider. Et alors lorsque vous avez un projet de film, vous montez votre financement avec l'aide naturellement de l'avance sur recette, d'un certain nombre de procédures et de processus qui existent en France, Dieu soit loué, depuis un certain nombre d'années. Vous allez trouver la chaîne de télévision ad hoc qui vous achète évidemment à un certain prix votre projet de film, puis ensuite vous venez nous trouver. Et nous consolidons votre, si le projet nous semble viable, et nous n'avons pas de jugement à porter sur l'esthétique ou sur le projet artistique du film, ça n'est pas de notre compétence, mais nous, si nous jugeons que le montage financier est viable, nous apportons notre garantie. C'est un peu ce que la COFAS fait pour les exportations françaises à l'étranger. Alors une fois que nous avons donné une garantie peut aller de 40 jusqu'à 70%, ce qui naturellement est une assurance considérable pour les financiers.
Beaucoup.
Et si nous ne donnons pas cette garantie, le financement très souvent n'est plus assuré parce que les banquiers se retirent. Et c'est grâce à ce système et à cet institut qui fonctionne, je dois dire, de façon extrêmement efficace et heureuse, que sur les 200 ou 220 films qui sont produits par an en France, 80 à 85% existent et peuvent naître. Sans notre aide et sans notre garantie, la plupart de ces films n'existeraient pas, et surtout, naturellement, ceux de jeunes sociétés de production ou de jeunes auteurs. Les grandes sociétés de production, les grandes sociétés nationales, Gaumont, UGC, etc., Pathé, n'ont pas besoin de nous et ne font pas appel à nous, ce sont leurs propres. Voilà. Alors à quoi sert l'Institut de financement du cinéma et des industries culturelles?
Donc votre participation à la vie culturelle française et à son financement et à sa pérennité, donc c'est une sorte de continuation un peu de...
Écoutez, le gouvernement a jugé que je pouvais, étant donné mon passé dans ce secteur, apporter, oui, élargir le spectre des activités de l'IFSIC, puisque ça s'appelle l'IFSIC et qu'il y a même un néologisme qui est IFSIC. Est-ce que ton film a été IFSIC ou est-ce que ce film est IFSIC? Alors vous voyez parfois dans le générique de fin, avec le concours de l'IFSIC, alors vous saurez que c'est nous.
Donc vous avez parlé de votre passé, précisons que évidemment vous avez été pendant 9 ans directeur général de l'Opéra National de Paris de 1980.
Permettez-moi de vous corriger, je n'ai pas été directeur général, j'étais directeur tout court, ce qui a d'ailleurs posé un problème à certains lorsque j'ai inspiré le statut de l'Opéra qui régit encore cette institution depuis 1994. J'ai souhaité modifier les intitulés et surtout veiller à ce que le patron de l'opéra soit le directeur et pas le directeur général. Alors d'aucuns m'ont dit, mais vous voudrez bien avoir des directeurs sous vos ordres. Comment pourrez-vous être directeur si vous n'êtes pas directeur général? Je lui ai dit, bon, vous allez voir, ça marchera très bien. Et donc le titre actuel depuis maintenant 12 ans du patron de l'opéra, c'est directeur tout court, comme Lully.
Merci pour cette précision. Et vous avez passé 15 années, je veux dire, à la tête de l'opéra de Genève.
Alors à l'opéra de Genève, j'étais directeur général, c'était le titre dont j'ai hérité et qui m'a procuré beaucoup de plaisir, beaucoup de joie professionnel et de tous ordres dans cette ville à laquelle je reste profondément attaché.
Ces 9 années passées, on va dire, à la tête de l'Opéra de Paris, ont été tumultueuses pour bien des raisons et en même temps apaisées et sereines pour bien d'autres motifs. Le bilan, bien sûr, vous l'avez fait dans la presse voici 2 ans, lorsque vous avez quitté vos fonctions, mais je trouve qu'il est intéressant quand même de revenir avec le recul que vous avez aujourd'hui sur toutes ces années. Quels souvenirs est-ce que vous avez gardé en général de ces 9 années ?
Écoutez, d'abord, j'ai gardé des souvenirs innombrables, heureux, moins heureux, comme dans toute activité, à la tête d'une entreprise aussi contrastée, aussi difficile que l'opéra depuis sa création. L'opéra de Paris, l'opéra en général, n'est pas évidemment le lieu de la paix. Et si on veut méditer, il vaut mieux aller à Saint-Benoît-sur-Loire. Encore que. Mais les souvenirs que j'ai gardés, je ne veux pas vous parler de mes souvenirs des spectacles qui ont eu lieu. Je m'étais assigné, et le gouvernement avait accepté la règle que je m'étais assigné à sa demande, d'ailleurs en 94. J'avais, à la demande du ministre de l'époque, Jacques Toubon, et du premier ministre de l'époque, Monsieur Balladur, j'avais déposé un rapport qui me liait...
En 1993, ouais.
En 93, et qui a donc été une sorte de charte. Et un cahier des charges, comme vous voudrez, que le directeur de l'opéra, en l'occurrence moi-même, avait l'ardente obligation d'observer. Alors, cette charte, c'est peut-être le souvenir le plus important, mais c'est un souvenir qui perdure. Cette charte comprenait un certain nombre d'exigences. D'abord, posée comme un principe l'unicité du commandement, alors que dans les statuts précédents, la direction était éclatée entre un certain nombre de mandarinas et que rien ne fonctionnait vraiment de façon satisfaisante. J'ai déjà fait la critique de ce qui se passait avant moi, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, si ça avait été si bien, on n'aurait pas fait appel, j'allais dire, à quelqu'un qui était extérieur au jeu musical français, puisque j'étais, comme vous l'avez rappelé, en Suisse. Alors, j'avais souhaité, d'une part, une structure pyramidale avec un directeur, un patron. Ensuite,
qui chapeaute
l'intégralité des fonctions du directeur sur, pour ce qui concerne l'Opéra de Paris, sur 3 sites. Garnier, le vieux et superbe théâtre, la Bastille, nouveau théâtre qui ne fonctionnait pas très bien. Et puis, le site très important, moins connu et très important, l'école de danse de Nanterre, qui assure évidemment l'avenir de cet art qui, à beaucoup d'égards, est en danger aujourd'hui. Bref, j'avais donc souhaité être directeur. Être directeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir la responsabilité de la politique artistique, d'un projet artistique, sur les 2 volets essentiels de l'activité de l'Opéra de Paris, qui, comme vous le savez, comporte l'art lyrique, pour un peu plus de la moitié de son activité, et puis cette grande tradition de l'art chorégraphique qui est pratiquement née chez nous au XVIIe siècle sous l'impulsion de Louis XIV, comme vous le savez aussi. Bon, et puis être directeur, c'est prendre des décisions artistiques, mais prendre des décisions artistiques qui s'inscrivent dans une perspective de gestion, une perspective d'administration, de rencontre du public, c'est-à-dire tenant compte d'une véritable politique commerciale, d'ouverture et de démocratisation, comme on l'a souhaité, en ordonnant la construction de l'Opéra Bastille, président Mitterrand a souhaité rendre plus populaire, avec beaucoup de guillemets, l'art lyrique et la danse. Alors c'était un des engagements qui ont été les miens. Alors, maintenant, les souvenirs, ils sont innombrables, et ça a été des souvenirs de conflits sociaux extrêmement violents et de tensions qui ne se sont jamais véritablement calmées. Et puis, un des souvenirs plus heureux, de succès, de spectacles qui ont marché. Et puis, l'idée que je me fais maintenant, sans vouloir, d'avoir rempli la mission qui m'avait été assignée dans un esprit de service public qui n'a jamais quitté mes préoccupations.
Alors nous allons un peu revenir sur chacun des points que vous venez d'aborder. Pour se replacer dans la position de 1994, vous avez dit vous-même qu'elle n'était pas la plus aisée des positions, puisque l'Opéra de Paris était encore en plein chamboulement, Bastille qui connaît une programmation encore un petit peu chaotique, l'Opéra Garnier qui doit être rénové, puis il y a ce conflit avec le chef d'orchestre Ming Nung Chung qui a fait couler à l'époque beaucoup d'encre, du moins moins dans la presse, et puis les problèmes sociaux sur lesquels nous allons revenir plus tard. Mais comment, question plus globale, comment est-ce que lorsqu'on arrive à la tête d'une telle institution qui connaît toutes les difficultés que l'on vient d'évoquer, comment arriver à rétablir une confiance, un prestige, une notoriété qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des établissements sur le même plan que les salles de Londres, de New York ou de Vienne ou d'autres? Comment attirer, par exemple, des grands interprètes, des grands metteurs en scène, ou rétablir cette confiance?
Rétablir la confiance, c'était le premier des devoirs du patron que je suis devenu en 95. Comment? D'abord, en faisant appel et en mettant en évidence les extraordinaires qualités. C'est pas par démagogie que je le dis, parce qu'on sait bien que je suis absent de ce genre de sentiments, mais de tous la plupart, en tout cas de la plus grand nombre des acteurs de l'Opéra de Paris. Nous avons à l'Opéra plus de 1600 employés permanents, plus un certain nombre d'artistes qui viennent au gré des spectacles, d'équipes de production, de metteurs en scène, de chorégraphes, etc., etc. Et puis naturellement des intermittents ou des surnuméraires, comme vous voudrez. Eh bien, tous ces gens-là sont parmi les meilleurs de leur profession. En France, ça va sans dire, et je n'ai pas peur non plus de l'affirmer, en Europe. Alors, il fallait fédérer et donner un sens à leur action, leur donner un but, gagner leur confiance pour pouvoir gagner la confiance, évidemment, des grands artistes qui, depuis maintenant plus de 10 ans, sont retrouvés avec plaisir, je crois, et le public parisien, et les conditions de travail qui ont été réunies pour rendre leur travail, qui est déjà très difficile et très stressant, plus facile et plus heureux. Alors que faut-il? Simplement, une chose, une bêtise à pleurer, il faut être sérieux et professionnel. Et puis il faut faire les choses, non pas en amateur, parce que être directeur de l'opéra, j'ai appris ça en tout cas maintenant depuis près de 40 ans, c'est un métier. Ça s'apprend, et on n'est pas un directeur de l'opéra parce qu'on a été à un moment donné un homme d'affaires de génie, ou qu'on a été un très bon compositeur, ou qu'on a été un très remarquable metteur en scène, ou un ancien chanteur. On est directeur d'opéra parce qu'on a simplement une connaissance à peu près précise, la plus précise possible, de l'ensemble des métiers qui concourent à rendre possible une représentation chorégraphique, une représentation lyrique. C'est-à-dire qu'on peut dialoguer, non pas seulement avec les équipes de production, le metteur en scène, le décorateur, le perruquier, le maquilleur, etc., et le chef d'orchestre, mais que l'on peut ensuite prendre des décisions, arbitrer, en ayant des raisons à opposer ou à donner à ceux dont on a la charge et qui sont placés sous votre responsabilité. Et là, le respect mutuel, l'estime mutuelle entre une équipe de direction, j'ai eu la chance d'être entouré de remarquables collaborateurs qui sont venus à peu près du monde entier, j'en ai trouvé ici, j'en ai fait venir de Norvège, d'Italie, etc., qui ont autour de moi constitué une équipe qui a créé les conditions de cette confiance. Alors cette confiance, elle est fondamentale entre l'institution et les artistes qui lui font l'amitié de venir, entre cette institution et le public. Alors ça ne se crée pas du jour au lendemain, mais il faut que la régularité des spectacles, la régularité de la qualité, la réputation de ces spectacles correspondent à l'image que se font les spectateurs futurs de ce qu'ils vont venir voir en achetant leurs billets. Il faut aussi qu'il y ait une confiance qui soit créée, elle est tout aussi importante que avec les gens qui ne viennent pas, avec ceux qui sont le public, le non-public ou le public qui un jour viendra, et puis avec la collectivité nationale à travers tous ces représentants qui sont la fonction publique dont nous dépendons, les représentants que sont les députés ou les sénateurs, l'ensemble des collectivités qui doivent se dire, après tout, nous payons pour l'Opéra de Paris, peut-être nos électeurs n'y viennent-ils pas ou ne souhaitent-ils pas y aller, mais en tout cas, nous ne souhaitons pas avoir à rougir d'une institution qui est très coûteuse. Les Français sont fiers du Louvre, sont fiers du Centre Pompidou, sont fiers d'un certain nombre d'institutions culturelles qui, par la force des choses et l'histoire sont situées à Paris, et ils n'en bénéficient pas tous, quels qu'aient été d'autre part les efforts que j'ai pu faire avec mon équipe pour ouvrir les portes de l'opéra au public le plus large, non pas seulement en termes de classe d'âge ou de moyens financiers, mais aussi pour élargir le champ de notre recherche. Sur l'ensemble du territoire, avec des une politique de programmation, avec une politique d'accord avec la SNCF, etc., puisque nous avons la chance maintenant d'avoir ce réseau de TGV qui innerve la France, et la Bastille se trouve heureusement située pas très loin de la gare de Lyon, c'est-à-dire au fond d'un nœud ferroviaire important. Bref, nous avons élargi tout cela pour créer les conditions de la confiance politique au sens le plus noble du mot, de telle sorte que la collectivité nationale n'est pas à rougir de son opéra, que les comptables que sont les représentants des tutelles des finances s'aperçoivent que l'argent qui nous est imparti est dépensé de façon judicieuse. J'espère avoir été digne de cette tâche pendant 9 années. Voilà, la confiance est un tout, et ce sont un ensemble de facettes très, très diverses, mais qui sont toutes les facettes d'une même confiance. Voilà.
Et qui a dû se rétablir, on le devine, petit à petit, durant ces 9 années. Ça a quand même été un mandat particulièrement long par rapport à ceux de vos prédécesseurs.
Alors, c'est un des autres éléments de ma réforme et du statut que j'ai obtenu. C'était que le directeur de l'opéra, au lieu de ces mandats de 3 ans qui ne signifient plus grand chose dans notre métier, les artistes, la programmation se fait maintenant 4 voire 5 ans en avance, surtout pour ce qui concerne un certain nombre d'ouvrages qui font appel à un vivier de solistes, de chefs d'orchestre, de chanteurs qui nous sont communs avec l'ensemble des grandes institutions mondiales. Il faut donc les fixer et les arrêter à temps pour en bénéficier. Alors tout cela fait qu'un mandat de 3 ans était une sottise. Donc nous avons obtenu, et ce qui était une grande pour l'Opéra de Paris, un mandat de 6 ans qui se proroge par période de 3 ans. Donc je suis resté, donc 6 plus 3, 9 ans, c'était bien suffisant, j'en étais très content, mais ça a donné aussi au personnel, au public, à l'ensemble de ceux qui observaient la vie de l'Opéra, une idée d'un effort dans la durée. Je crois que c'est fondamental pour une grande institution, c'est vrai aussi pour cette nation, c'est l'idée de l'effort poursuivi, et pas seulement du coup de collier qui fait qu'on gagne la Coupe du Monde et qu'on la repère 2 jours après.
Donc vous diriez que cette confiance dont vous parliez juste avant s'est rétablie au fur et à mesure, ou vous avez senti qu'elle s'était rétablie dès le début?
Tout ça s'est fait de façon très, à la fois progressive. Il y avait une grande attente, pas désobligeant vis-à-vis de mes prédécesseurs, mais c'est évident que l'opéra était un peu en errance, probablement aussi, n'était-ce pas de leur fait, mais ajouté à un tronc qui s'appelle le Palais Garnier, qui est traditionnellement le lieu de l'opéra, une seconde salle qui se trouve devenir la principale, et dire à ce moment-là, en 1988, 89, 90, au personnel, les meilleurs d'entre vous iront à la Bastille, les plus mauvais, on ne le disait pas comme ça, mais c'était un peu ça qui était en filigrane, resteront à Garnier, et puis ceci, et puis on ne fera plus que de la danse à Garnier, et l'on ne fera que de l'opéra à Bastille. Et M. Chung, dont vous rappeliez qu'il a été à un moment donné directeur musical de l'opéra de Paris, disant « Moi, je veux que l'orchestre de l'opéra soit réservé aux spectacles lyriques, les spectacles de ballet auraient été accompagnés ou devaient être accompagnés que par d'autres formations moins prestigieuses que l'orchestre d'opéra. » Enfin, tout cela faisait quelque chose qui ne donnait pas l'image qu'on pouvait souhaiter d'une institution aussi prestigieuse, car elle l'a été souvent dans l'histoire, vous le savez, et que l'Opéra de Paris. Alors bon, cette confiance et cet ensemble de paramètres se sont installés petit à petit. Il y avait un besoin, pas dire que les grenouilles demandaient un roi, parce que la fable ne se serait pas terminée en ma faveur, mais enfin, disons que c'était nécessaire et que l'équipe que j'ai pu constituer tout de suite a su, je crois, établir très rapidement des règles du jeu claires. Alors après ça, on pouvait un peu naturellement critiquer le résultat et dire que mon management, pour parler de façon peu académique, a présenté un certain nombre de défauts, qu'il était certainement plus musclé qu'autre chose, mais enfin c'était nécessaire et je n'avais pas d'autre moyen de faire prévaloir les objectifs qui étaient les miens. Voilà, alors je crois que la confiance est arrivée assez vite et le public a suivi, et puis la collectivité nationale nous a accordé sa confiance, elle nous l'a renouvelée, je crois que ça continue aujourd'hui, je m'en félicite.
Nous sommes en compagnie de Gaël, nous nous retrouvons dans un tout petit instant. Monsieur Gall, venons-en peut-être à la spécificité de l'Opéra Bastille. Quand vous avez pris vos fonctions en 1995, l'Opéra Bastille, on ne peut pas dire que l'opéra fonctionnait encore de façon optimum. C'est une salle aujourd'hui qui a une place incontestée dans le paysage parisien et français. Et pourtant, à ses débuts, donc, qui a suscité des débats passionnés. Et vous-même, d'ailleurs, dans le fameux rapport que vous aviez rédigé en 1993, dont vous rappelez l'existence tout à l'heure, vous aviez dit que l'Opéra Bastille était la mauvaise réponse à un problème qui ne se posait pas.
Permettez-moi de vous corriger. Alors, dans le rapport que j'ai déposé en 1993, je n'ai pas écrit cela, mais j'ai dû dire cela à Madame de Saint-Pulgent, qui a écrit un excellent ouvrage à la fin des années 80, qui s'appelle « Le syndrome de l'opéra ». Alors j'ai dit à l'époque que l'Opéra Bastille était la mauvaise réponse à une question qui ne se posait pas. Enfin, en réalité, tous mes efforts, à partir du fameux rapport dont vous rappelez l'importance, et jusqu'à la fin de mon mandat, a été de donner tort à cette boutade, dont je rappelle que je la pensais profondément le jour où j'ai dû la proférer, puisque je n'avais pas conscience, très franchement, à la fin des années 80, à la fin des années 70, puisque j'avais vécu une première période de la vie de l'opéra,
avec Rolf
Liebermann, une époque particulièrement prestigieuse, mais enfin, je voyais bien que la salle était trop petite quand les spectacles étaient particulièrement prestigieux, réussis, mais qu'il y avait aussi des salles qui n'étaient pas aussi remplies qu'on aurait pu le souhaiter. Par conséquent, quand le président Mitterrand a décidé d'ajouter cette salle de 2700 places à la collection de ses grands travaux au début des années 80, je pensais très sincèrement qu'il n'y avait pas un réservoir de public tel qui rendit nécessaire un tel investissement. Alors, très bien, très bien ou très mal, je me suis trompé, en tout cas j'ai tout fait pour qu'aujourd'hui l'on considère que cette boutade était une sottise. Parce que nous avons tous travaillé pour veiller à ce que les salles soient pleines, que l'Opéra de Paris remplisse beaucoup mieux, grâce à l'Opéra Bastille, sa mission de service public, de service public culturel, d'éditeur, de grands ouvrages, ou de musées, comme vous voudrez, et aussi de galeries d'art moderne, puisque nous y créons. La Bastille nous a apporté donc un électorat, pour parler comme un politique, beaucoup plus vaste, puisque nous accueillons, ou l'Opéra de Paris accueille grâce à elle, désormais plus de 800 000 spectateurs par an, ce qui est beaucoup, que ces spectateurs sont très diversifiés, entre à peu près 10% de touristes et d'étrangers, mais 20% des spectateurs de l'Opéra National de Paris, avec ces deux salles, sont des provinciaux. Et quand je dis provinciaux, ce sont des gens qui proviennent d'un cercle extérieur aux 100 km qui entoure Paris. Alors, je veux dire que ça fait quand même de l'Opéra National de Paris aujourd'hui la salle, j'allais dire l'opéra de région le plus important, puisque vous faites le compte rapidement, nous devons accueillir plus de entre 150 et 200 000 spectateurs venus des régions de France. C'est fondamental pour moi, sur un plan simplement de la légitimité de l'institution face à la nation, qui a été une de mes obsessions.
Et c'est un opéra nation, c'est l'opéra national de Paris.
Alors, quand on dit l'opéra national de Paris, il ne s'agit pas de faire de cet opéra un opéra de la nationalité française, avec des chanteurs et des acteurs purement français, n'ayant comme seule mission qu'à illustrer le répertoire national français. Pas du tout. Nous avons cette obligation aussi, puisque nous sommes à Paris, et c'est bien normal. Mais le mot national pour l'opéra...
C'est national au sens de Jean Villard, au sens...
C'est national au sens simplement tout bête, que c'est la nation et elle seule, c'est-à-dire l'État, qui subventionne l'Opéra de Paris, la ville de Paris ne nous donne pas un sou, la région d'Île-de-France non plus, et nous sommes de ce point de vue-là, une institution purement nationale. Je crois que le Louvre partage avec nous ce privilège, et la Comédie Française aussi. Nous sommes nation. Alors maintenant, on donne le label national à toutes les scènes, à toutes sortes d'institutions. C'est une sorte de label sympathique qui dit simplement, ben, ils sont bien, cocorico, il y a un opéra national par-ci, il y a un orchestre national par-là. Nous sommes nationaux, parce que nous ne dépendons que de la subvention de l'État. Alors on me dirait, les Parisiens sont...
C'est quand même majoritaire.
Oui, alors il y a 60% de spectateurs qui sont de la région parisienne, mais enfin, la ville de Paris, en tant que telle, ne subventionne pas l'Opéra de Paris. Elle a ses œuvres, si je puis dire, et non pas ses pauvres, mais elle a ses institutions, et là, notamment, en matière lyrique, comme vous le savez, un théâtre qui marche très bien, qui s'appelle le Théâtre du Châtelet, qui donne de l'opéra, notamment.
Et pour revenir sur la comparaison avec Jean Villard, est-ce qu'on peut dire que c'était une façon aussi de faire quelque chose d'un peu démocratique comme le Théâtre National?
Vous savez, le Théâtre National Populaire de Jean Villard, que j'ai bien connu et auquel je dois beaucoup, avait un propos qui était pas le contraire de ce qu'on a souhaité pour l'Opéra de Paris, mais néanmoins le public que nous avons essayé d'amener à l'opéra, ne serait-ce que parce que le prix des places, qu'on les ait maintenues à un niveau très raisonnable, reste malgré tout une barrière, et que du temps de Jean Villard, se précipitait et était organisé des circuits grâce à ce qu'on appelait à l'époque les comités d'entreprise et les collectivités, ce qui est un peu moins le cas aujourd'hui. Les collectivités existent toujours, mais ce ne sont plus vraiment des véhicules du public. À l'époque de Jean Villard, au théâtre de Chaillot, on côtoyait là, évidemment, toutes sortes de gens qui découvraient le théâtre avec beaucoup d'émotion et qui sont restés, j'espère, des fidèles des grands chefs-d'œuvre qu'ils ont rencontrés dans cette époque des années 50 et 60 que j'ai connue, Dieu soit loué, au début de mes séjours parisiens. À l'opéra, on voit naturellement un public très diapré, mais il est quand même beaucoup moins populaire, entre guillemets, avec beaucoup de respect, que celui que j'ai pu rencontrer au TNP il y a maintenant 40 ans.
C'est un regret ou...
Non, ça n'est pas un regret.
C'est deux publics différents.
Le problème du public, d'ailleurs, je mentionnais le problème du prix des places, il existe, mais enfin, il n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est l'appétence, c'est le goût, c'est le désir. Tant que l'enseignement des disciplines dites de la sensibilité, c'est-à-dire l'enseignement des arts, sera aussi mal dispensé, je ne parle pas de la qualité des enseignants qui est certainement excellente, mais aussi mal dispensée dans le cadre du cursus scolaire qu'il l'est aujourd'hui, et qu'on le voit disparaître petit à petit, il est évident que les jeunes, les étudiants, ont bien du mérite à avoir envie de découvrir Mozart, si on leur en parle jamais à l'école. Alors s'ils n'ont pas la chance, comme ça a été mon cas, de naître dans une famille cultivée, de gens qui avaient besoin de la musique comme ils avaient besoin de la peinture, etc., et c'est là le cas de beaucoup de jeunes gens, ça n'est pas ou plus ou pas assez à l'école publique qu'il trouve et qu'il rencontre ses chefs-d'œuvre. Alors donc, la question fondamentale de l'avenir de l'art lyrique et de la danse, et de la danse classique tout particulièrement, c'est le problème de l'enseignement, d'éducation, qui aujourd'hui laisse, pour le moins qu'on puisse dire, à désirer. Et là, il faut faire quelque chose. Nous, à l'Opéra de Paris, nous avons essayé de suppléer, en tout cas d'avoir une action autre que la simple action de produire des spectacles, de les ouvrir par toutes sortes de biais à un public nouveau. Nous avons aussi veillé à avoir, avec les académies de la région parisienne, un certain nombre d'actions fondamentales, comme ce programme qu'on nous a beaucoup copié et dont je suis particulièrement fier, et qui a été mis sur pied par Daniel Fouache et Martine Kahn, deux collaboratrices de première qualité, qui s'appelle 10 mois d'école et d'opéra, un programme qui a été mis sur pied avec le rectorat et avec les académies de Paris, et qui amène à l'opéra chaque semaine un certain nombre d'enfants de milieux très défavorisés, d'enfants en échec scolaire, qui sont pratiquement sélectionnés sur ces critères de difficulté scolaire dans les collèges et dans les lycées et dans les écoles de la région parisienne, qui viennent à l'opéra, qui sont encadrés et par nos chefs de service et par des enseignants, et qui au bout de 10 mois réalisent eux-mêmes un spectacle qui est pour eux un parcours presque initiatique de la chose artistique, puisqu'ils font, ils réalisent leurs costumes, font leur mise en scène, apprennent une partition et la jouent devant leurs parents à la fin de la saison, ce qui a pour eux, semble-t-il, après un certain nombre d'années, nous pouvons l'affirmer, un effet extrêmement positif sur leur ouverture à la culture, sur leur goût pour l'école. Ce sont des garçons et des filles qui, au départ, sont les moins motivés pour les cours de la scolarité normale et qui, à la fin du compte, c'est-à-dire après ces 10 mois, deviennent sans doute parmi les meilleurs et qui, c'est un détail qui est fondamental et qui est assez émouvant, amènent à l'opéra, à travers ces visites hebdomadaires, leurs parents. Les parents de la plupart de ces enfants sont souvent analphabètes, n'ont aucune notion de ce que vont faire leurs gosses quand ils viennent à l'Opéra de Paris, et ce sont les enfants qui rentrent chez eux, racontent ce qu'ils ont vu, et les parents à Vienne, et ce sont eux qui sont les spectateurs du travail de leurs enfants et qui, grâce à leurs enfants, s'ouvrent à tout cet univers tellement étrange, tellement étranger que peut l'être la danse classique ou l'opéra, l'art lyrique, dont on pense à tort sans doute qu'il est très très éloigné de la sensibilité de ces jeunes gens. Voilà une des actions que mène l'Opéra de Paris parmi beaucoup d'autres. Et nous ne sommes donc pas seulement un service public de production d'opéra, de spectacle pour les 800-850 000 spectateurs. Et ça, c'est notre première mission. Mais encore, nous sommes un conservatoire, nous sommes une école, nous avons une mission de non pas seulement de délivrer et d'illustrer les chefs-d'œuvre du passé, mais de transmettre les savoirs, et c'est naturellement de façon tout à fait éminente le devoir de l'école de danse de l'opéra, qui existe depuis le début du XVIIe siècle, et puis plus récemment de ce qu'on appelait naguère l'école d'art lyrique de l'opéra, et maintenant je ne sais plus, l'opéra studio, qui est de son côté en matière de chant et de savoir des techniques nécessaires à un jeune chanteur, exerce, je crois, une mission analogue à celle de l'école de danse de Nanterre. Voilà, grosso modo, quelles sont les missions que nous avons voulu pour l'Opéra de Paris et qu'il accomplit maintenant, je crois, de façon satisfaisante.
Nous allons revenir évidemment sur comment arriver à attirer un public et puis sur la politique que vous avez menée à Bastille et Garnier, c'est dans un tout petit instant. Monsieur Gall, quand vous avez pris vos fonctions, donc en 1995, l'Opéra Bastille était, on peut dire, à ses débuts. Aujourd'hui, donc, il connaît, on l'a vu, un renouveau. Et vous avez réparti, évidemment, la scène lyrique entre Bastille et Garnier, que les chorégraphies soient à cheval dans les deux salles et non pas la répartition comme vous l'aviez envisagé au tout début. Qu'est-ce que vous avez rencontré tout de même comme problème à Bastille? Ça demande quand même des scénographies assez denses. Ça ne permet pas, par exemple, de monter des opéras baroques qui sont maintenant et qui ne sont qu'à Garnier. Est-ce que ça n'a pas posé quand même des problèmes, cette grosse institution de Bastille ?
Quand on se trouve avoir la chance d'être directeur de l'Opéra de Paris, parce que c'est une grande chance, et qu'on dispose d'un clavier qui comporte deux notes, le Palais Garnier et puis la Bastille. Alors à ce moment-là, vous me disiez tout à l'heure que d'aucuns avaient souhaité, c'était le cas du ministre Lang et de M. Berger avant mon arrivée, répartir la programmation d'une façon qui ne me semblait pas cohérente. J'ai d'ailleurs veillé à rompre avec cette décision. D'une part, de réserver la danse au seul Palais Garnier et l'art lyrique à la seule Bastille. Alors ça, c'était à mes yeux, je l'ai écrit, pourquoi ne pas répéter une sottise. Et nous avons donc utilisé l'une et l'autre scène au gré de ce que nous imaginions, ou ce que j'imaginais devoir être la qualité première de chaque scène comme cadre pour telle ou telle programmation. Alors ça, c'est... Alors évidemment, sur les 350 représentations annuelles, grosso modo, nous avons réparti en 160 représentations qui ont eu lieu à Garnier et 200 ou un peu plus à la Bastille, avec un poids plus important de l'art lyrique à Bastille qu'à Garnier, pour des raisons qui tiennent compte de beaucoup de facteurs financiers naturellement. La jauge est plus favorable à Bastille qu'à Nanterre Garnier, pour des raisons évidentes, et puis d'autre part, puisque l'idée était tout de même de démocratiser ou de rendre plus accessible l'art lyrique grâce à l'Opéra Bastille, mais c'est à l'Opéra Bastille qu'on a présenté le plus grand nombre de représentations et d'ouvrages. Alors maintenant, quelles étaient les difficultés de Bastille? Non, on pouvait très bien imaginer de donner à Bastille des ouvrages baroques. C'est vrai que ça semble un peu paradoxal, parce que tout de même, les instruments baroques, par définition ou historiquement, ne peuvent pas ou non pas le volume et la force sonore les instruments qui, tels qu'ils se sont développés au 19e et au 20e siècle. Alors, c'est vrai que tout naturellement, les ouvrages baroques, je les ai réservés à Garnier, j'ai fait la part belle à Jean-Philippe Rameau, pour lequel j'ai d'abord une grande admiration personnelle et dont je crois que la personne et le génie font particulièrement honneur à l'histoire de l'Opéra de Paris, puisque c'est pratiquement à l'Opéra, à l'Académie Royale de Musique, que Rameau a réservé la plupart de ses créations. Donc on a Rameau, mais Handel, mais Lully naguère, et puis je pense à
pas
d'autres...
Pas beaucoup Monteverdi.
Monteverdi, je ne l'ai pas monté, mais on l'a fait, je pense, depuis. Mais si vous voulez, je n'ai jamais considéré que le Palais Garnier était le lieu uniquement de l'opéra du XVIIIe siècle, puisque j'y ai donné les créations et que j'y ai monté les Directives Carmélites de Poulenc et un certain nombre d'œuvres du XXe siècle qui me semblaient à moi plus adaptées à ce lieu, comme Péléas, qui par la suite a été transporté à la Bastille. Alors à la Bastille, quelles sont les contraintes qu'impose la scène de Bastille à une équipe de production d'art lyrique? C'est vrai que la technique de Bastille est absolument différente dans son essence de celle du Palais Garnier. Le Palais Garnier, c'est un théâtre à l'italienne avec l'idée que les décors étaient actionnés essentiellement de façon frontale. C'est une salle qui comprend ce qu'on appelle un cintre. Le mot veut bien dire ce qu'il veut dire. Ce sont des perches suspendues au-dessus de la scène et auxquelles sont attachés des décors qui sont des toiles ou des châssis. Et puis il y a dans les dessous des châssis qui viennent à la rencontre des toiles qui sont équipées, et on a comme ça la respiration normale d'un spectacle. Traditionnellement, c'était comme cela que l'on pouvait aller alterner sans problème en gardant dans le cintre du Palais Garnier, comme de tous les théâtres à l'italienne du 19e et du 20e siècle, une quinzaine d'ouvrages qui étaient en magasin. À la Bastille, tout est différent. La Bastille,
c'est une grande machinerie,
conçu une machinerie qui veut que le décor repose essentiellement sur des chariots qui sont des andamiers qui sont posés sur le sol. Autrement dit, le cintre, ce qu'il y a dans le cintre est négligeable, beaucoup moins important, il y a beaucoup moins de perches, et par conséquent, les décors sont déconnectés de ce qui est suspendu pour être posés sur ces damiers, qui rendent l'utilisation de la Bastille assez particulière, et qui permet de déconnecter le moment du montage du moment du jeu, de la répétition. Je m'explique, lorsque vous montez un spectacle dans un théâtre à l'italien comme Palais Garnier, eh bien, lorsque l'on équipe les perches, les machinistes sont sur le plateau, il n'est pas question d'y jouer, il n'est pas question d'y répéter. Pendant qu'on fait la technique, pour parler de façon un peu de jargon, eh bien, le spectacle se prépare ailleurs, il doit y avoir des salles de répétition, etc. Et le temps du montage du spectacle obère naturellement le temps réservé aux représentations ou aux répétitions musicales ou scéniques. Bon, à la Bastille, ce qu'on a essayé de faire, et on y est parvenu dans une certaine mesure, c'est de déconnecter le moment du montage en ayant ce système de damiers au sol qui sont équipés de décors dans les dessous, à quelque chose comme 15 ou 20 mètres en dessous sous le plateau de Bastille. Travaillent des techniciens qui montent à quelque heure du jour ou de la nuit, indépendamment même de tout ce qui peut se passer au niveau du plateau, les décors des spectacles à venir, spectacles nouveaux ou reprises. Et par conséquent, la respiration de la scène de la Bastille est très différente de celle de Garnier, et en théorie, d'ailleurs on le démontre, on arrive, si vous voulez, à une sorte de rendement plus efficace du travail qui s'accomplit sur la scène. On va sur scène beaucoup plus tôt, et on a un système d'exploitation très différent. Mais les décors eux-mêmes, alors, subissent dans leur esthétique des conséquences immédiates. Ces décors, s'ils sont posés sur ces damiers, ils doivent être construits, car dès que ces damiers bougent, ils entraînent un ballon. Donc, pour des raisons de sécurité, pour des raisons évidentes, les décors ne peuvent plus être de simples petits panneaux de toile broquetés sur des châssis faibles. Ce doit être des décors assez substantiels et qui sont plus lourds. Ce qui entraîne un certain nombre de conséquences qu'on imagine tout de suite dans le problème de l'entreposage, du cubage de tous ces décors. Un décor de Bastille, c'est pas du tout les X perches roulées que, traditionnellement, représentait un décor du Palais Garnier ou d'un théâtre à l'italienne. C'est très intéressant d'entrer là-dedans. Alors, du point de vue de l'acoustique, tout ça a des conséquences. Ça n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, ça a une conséquence aussi, dans la mesure où les décors conçus pour le Bastille, qui prennent en compte tous ces paramètres techniques que je viens de décrire de façon un peu rapide et probablement peu compréhensible pour l'auditeur, ces décors ne sont pas facilement transportables. Autrement dit, une tournée de l'Opéra de Paris avec ses spectacles lyriques à l'étranger est pratiquement inconcevable, en tout cas pour ce qui concerne les spectacles qui ont été montés pour la Bastille. C'est ainsi que nos amis japonais qui sont venus de nombreuses fois me demander d'amener, comme le font les grandes scènes internationales que sont le Met, la Scala, l'Opéra de Vienne, l'Opéra de Berlin, d'amener à Tokyo et à Osaka les grandes productions mythiques de notre maison, se sont vus opposer un refus poli mais définitif, parce que c'est non possibus. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas, il n'y a pas de théâtre qui corresponde au monde, à la technologie et à la conception de la scène de Bastille. Voilà, am I clear?
Bien sûr, vous connaissez dans le détail certaines précisions dans le déroulé des opéras. À quel point est-ce que vous êtes impliqué personnellement dans la vie de tous les jours à l'opéra? Je sais que vous aviez du bureau perché au 8e étage et que vous les auriez peut-être voulu un peu plus près du plateau, c'est ce que j'avais lu. C'est une vie dense, bien sûr, avec ces crises. Il y a eu les crises sociales à répétition, avec des crises quotidiennes pour préparer un spectacle, puisqu'on est dans l'immédiat. À quel point est-ce que vous preniez du recul?
Si vous permettez, la crise dans l'immédiat, monter un spectacle, c'est toujours un happening, mais enfin, nous avons, grâce à l'organisation très remarquable du travail de l'Opéra de Paris, à Bastille comme à Garnier, pu gommer au maximum, évidemment, les aléas. On ne peut pas, évidemment, gouverner les nerfs de la diva, qui sont finalement moins graves qu'on ne le dit. Les tensions qui existent traditionnellement, ou très souvent, entre le metteur en scène, le chef d'orchestre, etc. Tout ça, c'est le métier. Et en réalité, à l'Opéra de Paris, il y a beaucoup moins de crises de ce type. En tout cas, il y en avait moins de mon temps, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, que l'on ne pouvait l'imaginer.
Les crises sociales, il y en a eu beaucoup.
Mais envers les crises sociales,
vous savez,
l'Opéra,
je veux dire une grève, chose, si
pompeusement, l'Opéra, c'est la France. Alors, c'était un condensé des qualités et des défauts de notre cher pays. C'est un ensemble qui, depuis 3 siècles et plus, est constitué de femmes et d'hommes de grand talent, qui sont convaincus, ils ont bien raison de penser qu'ils sont là pour l'éternité, que rien ne peut les atteindre et de remettre en cause leur présence dans cette tour d'ivoire qu'est l'Opéra de Paris. Alors, ça s'oppose parfois à l'idée qu'on peut se faire de la réforme, du changement, de la productivité, qui est un mot à bannir, de la façon dont nous avons le devoir de rendre des comptes à notre actionnaire qui est l'État. Et l'État, qu'est-ce que c'est? C'est l'opinion publique et ce sont les contribuables. Alors l'Opéra de Paris, c'est la France. Il y a des moments où ça marche, où il y a d'autres moments où les gens se mettent en drapeau. Rien n'est simple à l'Opéra de Paris, mais une fois de plus, c'est vraiment l'Opéra de Paris, et pardon de le dire de façon un peu bête, est à Paris. Alors ces problèmes de l'Opéra de Paris, les problèmes du métier de lyrique ou chorégraphique, on les a pratiquement partout, sauf qu'on ne les a pas de la même façon à Londres, à New York, à Berlin, à Munich ou à Milan. Voilà, à Paris, c'est différent, et il y a beaucoup de raisons qui me font penser que c'est pas forcément le côté dont on a lieu d'être le plus fier. Voilà pour ce qui concerne cet aspect de la tension avec les personnels. Les personnels eux-mêmes sont d'ailleurs non pas innocents, mais sont représentés par, très souvent, par des délégués syndicaux qui ne voient midi qu'à leur porte. Je l'ai suffisamment dit au moment où j'étais leur chef pour ne pas manquer de le rappeler. Et ce qui est le plus navrant dans toute cette affaire-là, c'est le corporatisme. Les intérêts qui sont défendus là ne sont pas forcément, sont certainement pas, la plupart du temps, pas les intérêts de l'institution, ça va sans dire, mais ne sont pas vraiment les intérêts de l'art et ne sont pas les intérêts, ou pas très souvent, ou pas souvent, les intérêts des personnels que représentent certains mouvements syndicaux. Voilà.
Est-ce que les relations étaient quand même un petit peu moins tumultueuses à la fin, quand même? Vous avez réussi à apaiser les choses?
Oh non, mon propos n'était pas d'apaiser les choses, mon propos c'était de faire avancer les choses sans obérer l'avenir et sans laisser à mon successeur de situation qui aurait pu l'amener à regretter de m'avoir succédé. Alors non, je crois que j'ai veillé à ce que, chaque fois qu'il était nécessaire, de dire ce que je croyais être important et d'aller, s'il était nécessaire, à l'épreuve de force avec le personnel. Oui, c'est vrai.
Thank you.
Et sur votre implication personnelle dans la politique de l'opéra, je m'explique. Comment est-ce qu'on gère une programmation de ce type d'institution? Comment gérer la part de création, la part de musique du XXe siècle, la part d'opéra plus classique et donc qui vont amener un plus grand succès peut-être évident auprès du public?
Tout est une question d'équilibre. D'abord, on s'inscrit dans une histoire et lorsque j'ai commencé à concevoir mes premières saisons à l'Intel Opéra de Paris avec les deux salles, avec les circonstances que vous venez de rappeler, une Bastille qui allait caca et qui venait de naître, etc. J'ai pris en compte ce qui existait, ce qui avait été donné, ce que j'assignais à cette institution comme projet pour les 9 ans qui allaient suivre. Alors, chaque saison n'est pas donc séparable de celle qui la précède, celle qui la suit. Chaque saison doit cependant être équilibrée.
Se suffire elle-même aussi.
Alors, elle doit être équilibrée dans le sens où, à mes yeux, maintenant on peut penser autrement. L'Opéra de Paris, c'est un théâtre de répertoire, c'est le Louvre, c'est la bibliothèque de la Pléiade, mais c'est pas un festival. L'Opéra de Paris n'est pas là, et c'est pas sa mission pour donner à quelqu'un happy few, quelques Parisiens élégants, les bonheurs qu'ils ont très bien à Aix-en-Provence, à Salzbourg ou à Édimbourg. L'Opéra de Paris est là pour donner à la nation, de façon régulière, l'ensemble des chefs-d'œuvre, le plus large spectre possible des chefs-d'œuvre de l'art lyrique et de la danse du XVIIe siècle jusqu'à la création. Alors, une saison s'organise autour de cette idée. À partir du moment où les données étant de pouvoir produire 21 titres différents d'opéra et 17 à 18 soirées de ballet différentes, et on veille à ce que tout le monde y trouve, je veux dire, son compte, les chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, le baroque, les grands classiques du XIXe siècle qui doivent faire partie du répertoire de l'opéra de Paris comme il fait partie du répertoire de toutes les grandes scènes lyriques du monde, les grands Puccini, les grands Verdi, les grands etc. etc. Et puis, au XXe siècle, tout ce qui est désormais partie de notre héritage, en ajoutant chaque année, comme j'ai essayé de le faire, des commandes et des créations à des compositeurs contemporains, français ou non. Voilà.
Et
alors
l'opéra a une vocation quand même à faire connaître des créations, à permettre la création de certaines œuvres qui ne seraient peut-être pas montées ailleurs.
L'opéra a vocation à le faire, et il avait vocation par définir à ne faire que ça à ses débuts, au XVIIe, au XVIIIe siècle, on a pratiquement donné que des créations, puisque l'opéra n'existait pas. Puis ensuite, à partir du moment où l'opéra s'est enrichi, il est devenu de petit à petit d'opéra de création pure, un théâtre de création et de répertoire, avec une grande fluctuation dans la création. Aujourd'hui, au contraire de ce qui a pu se passer dans les années 60-70, l'opéra est moins figé dans son rôle de pur conservatoire, de pur musée. Nous avons commandé des œuvres, non seulement sur le plan lyrique, à Philippe Fénelon, à Philippe Manoury, à Mathias Pincher, à Pascal Dussapin. Mon successeur fait la même chose avec d'autres artistes, avec d'autres compositeurs, mais aussi à beaucoup de compositeurs qui ont été peut-être moins mis en lumière parce qu'ils ont accepté de composer et de créer des œuvres pour le ballet, qui est un grand facteur de création et de modernité dans notre programmation. Alors nous avons donc ce devoir. Nous sommes à la fois, si vous voulez, je le disais, un éditeur de classiques, nous sommes les classiques Hachette ou Larousse, appelez ça comme vous voulez, puis nous sommes des éditions de minuit, et puis nous sommes aussi la galerie d'art et d'essai qui tente de trouver un public pour une œuvre totalement nouvelle.
C'est bien la difficulté de trouver un public pour de telles œuvres.
Non, ça n'est pas une difficulté.
Non,
je veux dire pourquoi, parce qu'on en revient à votre première question. Une fois qu'on a créé un flux de public confiant, sachant que, d'abord, est curieux, mais les deux choses vont de pair, et que l'on a un instrument aussi irrigué qu'il l'est, et c'est l'Opéra de Paris, par un public qui aime à s'y retrouver, eh bien la confiance est là, la curiosité du public doit être maintenue en éveil, et lorsque j'ai jamais pris vraiment de risque de public, bien sûr je ne vais pas vous dire que les œuvres de Dussapin ou de Fénelon
ont
eu le même succès que la Tosca ou Traviata. Néanmoins, l'œuvre la moins connue, et par définition elle l'était, puisqu'elles étaient des créations mondiales d'œuvres de compositeurs qui, quoique connus dans des milieux de la musique d'aujourd'hui, ce ne sont pas des noms qui, à l'affiche, attirent le public, eh bien ces œuvres, que ce soit la Salammbô de Fénelon, le Perella de Pascal Dussapin ou le K de Philippe Manoury, ont rencontré en moyenne 80 à 85% de spectateurs, ce qui sur 2700 places fait quand même beaucoup, 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 de monde. Ça vient du fait que le public est intéressé, curieux, et que le risque n'est pas celui qu'on croit. Le risque du directeur qui, à l'Opéra de Paris, affiche une œuvre d'aujourd'hui et une commande n'est pas considérable, parce que d'abord l'œuvre doit être bien montée, bien choisie. J'ai eu la chance d'avoir des gens de grand talent qui ont servi ces œuvres. Ce que j'ai veillé à faire, et ça c'est peut-être l'originalité de ma politique, ça a été de dire d'entrée de jeu, je commande telle œuvre à M. Philippe Fénelon, ou à M. Pascal Dussapin, ou à M. Philippe Manoury, et je décide d'entrée de jeu de la reprendre. C'est-à-dire que je n'ai jamais programmé une création, une commande, sans avoir confiance dans cette œuvre, et sans avoir envie de la confronter, non pas seulement au public des six premières, qui vient voir et qui est curieux, et puis d'avoir la presse mondiale qui vient traditionnellement pour une première mondiale, mais d'avoir disposé que 2 ans plus tard, l'on reprenne systématiquement les œuvres que j'avais créées.
Vous avez reprises systématiques pour chacune de ces créations.
Je l'ai fait en tout cas tant qu'il m'était imparti à couler, si je puis dire. J'ai repris la Salammbô de Fénelon avec un grand succès, j'ai repris le cas de Philippe Manoury, et j'espérais, ça n'a pas été le cas, mais enfin c'était mon idée, que mon successeur, M. Mortier, reprenne les 2 autres ouvrages que j'ai commandés, L'espace dernier de Mathias Pincher, qui est une œuvre qui a été très controversée, mais qui maintenant est en train de s'établir dans le répertoire mondial, et naturellement, le très beau Perella de Pascal Dussapin. Parce que commander une œuvre à un compositeur contemporain, ça veut dire que c'était à la portée de n'importe quel imbécile. Je faisais partie de ces imbéciles-là, et c'est un devoir qui ne présente, je crois vous l'avoir démontré, pas beaucoup de risques. C'est un devoir, et on le fait, et puis ça va bien, et puis le public est là, et puis les critiques viennent. Mais ce qui est beaucoup plus courageux et plus difficile, que je n'ai pas vu en tout cas accompli par la plupart de mes collègues depuis 30 ans, c'est de dire, ben, cette œuvre j'y crois, je la reprends et je l'inscris au répertoire, car il faut qu'elle trouve son public. Il faut aussi laisser le temps peut-être à des interprètes de s'affirmer davantage dans chacun des rôles, et puis au compositeur de la remanier. On connaît évidemment tout au cours des siècles, en tout cas au 19e ou au 20e siècle, il y a peu d'œuvres qui n'aient été retouchées par leurs compositeurs, Wagner, Mozart, etc., lorsqu'on a repris, ont naturellement repris, ajouté, coupé, etc., et amélioré, peut-être, en tout cas, leurs œuvres. On connaît les innombrables versions de Macbeth, de Boccanegra, de Haïda, etc., mais c'est vrai aujourd'hui, et je crois que Philippe Fénelon, pour ce qui concerne sa Salammbô et Manoury, ont pu remanier ce qui leur semblait imparfait dans le premier jet de leurs œuvres. Voilà ce qui me semblait fondamental, et si le directeur qui commande une œuvre n'y croit pas lui-même, ou le fait uniquement pour sa propre gloire, il n'a pas fait son métier convenablement. Enfin, j'essaie de faire le mien à peu près correctement.
Est-ce qu'il y a d'autres musiques qui vous inspirent, ou desquelles vous trouvez que la musique contemporaine ferait bien de s'inspirer? Quels sont vos goûts musicaux à vous?
Oh non, mais moi, mon goût musical, il est extrêmement éclectique. D'ailleurs, je ne suis qu'éclectisme, je ne suis tout sauf un idéologue. Et mes goûts me portent aussi bien vers des musiques extrêmement orientales qui me touchent et me fascinent, de toutes sortes de modes, des musiques hindoues. Alors, elles inspirent très largement une grande partie des compositeurs d'aujourd'hui, notamment aux États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si la musique contemporaine ou les musiques d'aujourd'hui doivent s'inspirer de ceci ou de cela. Je crois que chaque compositeur se source ou se ressource dans les univers dont il se sent les plus proches, et puis il doit naturellement être tellement personnel que à ce moment-là il devient lui-même la source d'inspiration pour d'autres. Il y a une chose dont je suis alors, et je dois dire que c'est pour moi une interrogation, autant je peux rester des heures à écouter un spectacle d'opéra de Pékin ou de théâtre no, qui est une forme d'expression musicale ou de kabuki, autant je peux écouter un gamelan de Bali, etc., et en être fasciné, autant je dois le dire, c'est peut-être pas très catholique que de faire cette confession, la musique arabe, cette mélopée, cette espèce d'incantation m'est totalement étrangère. J'en perçois naturellement totalement l'intérêt, tout ce qu'elle a pu faire et inspirer des mouvements musicaux traditionnels et hispaniques, mais je ne peux pas entendre Oum Kalsoum, dont on me dit que c'est la calasse du chant islamique. Ça, non, c'est pas... Là, pour moi, l'univers s'arrête là, mais j'en suis peiné, parce que ça veut dire que je ne le perçois pas, je ne le comprends pas et je n'aime pas cette expression musicale-là. Je me croyais ouvert à tout, mais pas ça.
Pour terminer sur la politique culturelle de demain, comment est-ce que vous percevez la future salle de concert qui est prévue à la Villette? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une place pour...
Écoutez, si je vous dis que j'ai confiance dans la musique d'aujourd'hui, je veux espérer qu'il y aura du public pour la salle de concert de la Villette. C'est un mystère pour personne. Moi, je considère deux choses. La première, c'est qu'effectivement, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il manquait ou il n'y a pas de salle de concert digne de ce nom à Paris, France. Il n'y a aucune salle qui corresponde à ce que sont les grandes salles.
La salle Pleyel
La salle Pleyel était, je touche du bois parce qu'elle va rouvrir dans quelques mois, et on veut croire que, en dépit de toutes les malédictions qui ont pesé sur elle depuis sa construction il y a maintenant 70 ou 80 ans, on va enfin trouver un univers acoustique satisfaisant, etc., etc. La salle Pleyel n'a jamais été une bonne salle, telle enseigne que, vous le savez sans doute, les grands solistes, les grands orchestres préféraient de loin attendre de passer au Théâtre des Champs-Élysées, qui n'est d'ailleurs pas une salle de concert, mais qui,
sur le plan
de l'acoustique, du prestige, etc., pour les solistes, c'est très bien, j'étais très lié d'amitié
aussi
avec beaucoup de grands solistes internationaux. Nathan Milstein était de mes amis, et j'ai pour lui la plus grande vénération, Claudio Arrau, etc. Tous ces grands solistes allaient au Théâtre des Champs-Élysées, Rubinstein aussi, et pas à la salle Pleyel. Alors on veut espérer que la salle Pleyel sera désormais un lieu agréable acoustiquement. Mais alors donc, on a décidé qu'il fallait construire une salle de concert digne de ce nom, prévue pour cela, etc. Bon, alors maintenant, sur le principe même, j'applaudis des deux mains. Faut-il la situer à la Villette? Maintenant que le gouvernement a pris la décision de le faire là-bas, bon, pourquoi pas? Je veux espérer que...
Vous n'auriez pas choisi la Villette?
Non, je n'aurais pas choisi la Villette, mais où? On a malheureusement démoli ou rendu absolument inutilisable le site qui était d'ailleurs remarquable et bien situé de la Gaîté Lyrique. Donc il n'était pas question de situer cette salle à cet emplacement ou dans ce cadre. Oui, une bonne question. Mais je pense que le 17e arrondissement du côté des Batignolles aurait quand même été un peu plus proche, parce que voyez-vous, quand on aura la salle Pleyel qui fonctionnera, et fonctionnera bien, quand on aura, et on a, le Théâtre des Champs-Élysées, dont l'acoustique vient d'être encore améliorée, qui est une salle de grand prestige, et quand on aura la salle de concert que Radio France va construire et qui sera achevée d'ici 2011 ou 2012, je ne sais pas, j'ai pas les dates en tête.
Au moment de la rénovation de la maison de la radio.
Grande rénovation de la maison de la radio, vous aurez la salle Gaveau qui est irremplaçable pour la musique de chambre, vous aurez là d'un seul coup un parc de salles de concert très important dans Paris, et en plus vous aurez la salle de la Villette. Alors bon, vous aurez la salle de concert de la Villette dont on veut croire qu'elle sera formidable. Est-ce que vous croyez que l'on pourra financer et attirer suffisamment de public dans tous ces lieux? Moi je veux l'espérer, je n'en suis pas sûr, mais comme je me suis trompé pour la Bastille, je veux bien me tromper pour cela. Je trouve que c'est vraiment très excentré, pas commode d'accès. On me dit que le public trouve son cheminement, c'est vrai, on l'a démontré. Beaucoup de gens ne croyaient pas à la situation même de l'opéra Place de la Bastille. Finalement, les publics qui viennent une ou deux ou trois fois par an à l'opéra, pour lesquels c'est une fête, ben s'arrangent pour quitter leur bureau, aller se changer ou ne pas se changer, et arriver
central,
à 19h30. Ou à... Ah, c'est central parce que c'est central, mais vous savez, la Villette, c'est pas central. Alors moi, je suis allé trois soirs au Zénith, j'aime autant vous dire qu'il faut vraiment vouloir y arriver. Et quand on y arrive, et qu'on y arrive à temps, je suis allé aux Victoires de la Musique, alors c'est une expérience toute nouvelle, et que le parking, je suis allé avec ma petite voiture en me disant au moins comme ça je pourrais repartir commodément après la fête qui se promet d'être très longue, quand on arrive et qu'on ne trouve pas se garer parce que c'est complet, un soir où il n'y a que le Zénith, si je puis dire, le Zénith est une entreprise importante, mais enfin, les soirs où il y aurait, par hypothèse, quelque chose au Zénith, quelque chose dans la nouvelle salle de concert, quelque chose à la grande halle de la Villette, qui est un lieu important, je ne sais pas où le public trouvera à se garer. Alors maintenant, viendra-t-il en métro? Je veux lui souhaiter beaucoup de bonheur pour arriver en métro, mais les gens, et c'est mon analyse, mais je la livre brute de décoffrage, le public qui pourra venir assister, qui souhaitera venir assister à un concert d'une grande formation symphonique ou d'un super soliste qui se produira à la Villette, ce public aujourd'hui se situe plutôt, qu'on le veut ou non, c'est peut-être un grand tort, dans la partie ouest de la capitale. Je ne vois pas qu'il y ait de quoi fournir du public de l'autre côté du périphérique pour l'instant. Ce sera certainement une vérité qui s'estompera de petit à petit, on veut le souhaiter.
Et que
d'ici 50 ou 100 ans, enfin bon, alors on verra. L'essentiel, c'est que cette salle soit construite. Et puis ensuite, les pouvoirs publics y pourvoiront. Et nous irons, vous et moi, écouter la Philharmonie de Berlin à la Villette, si tant est qu'elle ne préfère pas se produire finalement à des Champs-Élysées. Voilà.
Toute dernière question, est-ce que vous croyez justement par rapport aux banlieues et à un élargissement du public ? On parlait un tout petit peu plus tôt de l'enseignement de la musique. À la Bastille, on a vu que le public s'était quand même rajeuni au fur et à mesure des années où vous étiez à la tête notamment. C'est un petit peu élargi ?
Ah ben, le public s'est élargi, bien sûr, mais enfin, pour répondre de façon encore plus profonde à la question qui est la vôtre et qui conditionne véritablement la survie de la musique dans ce qu'elle a de traditionnel, la musique classique, l'opéra tel qu'on l'entend, et la musique symphonique, il faut évidemment que l'on fasse un effort beaucoup plus important que ça n'est le cas aujourd'hui, hein, en faveur des enfants des écoles primaires et des lycées. Mais fondamental, évidemment, parce que vous ne figurez tout de même pas que les gosses de banlieue vont aller spontanément écouter la 5e symphonie de Beethoven dirigée par Karajan. Il faut que les professeurs, il faut que surtout que dans le cursus des études, on ménage des plages qui les mettent en contact avec ça, si on y croit, c'est mon cas. Mais il ne faut pas leur dire le caviar c'est réservé aux autres et toi tu n'écouteras que du rap. Le rap mérite probablement d'exister, c'est pas mon message. Mais si l'on veut que tous ces jeunes gens, ces gosses, aient la possibilité de faire un choix et de décider si ça leur plaît ou pas, encore faut-il qu'on leur ait donné la possibilité de l'entendre. Pour l'instant, ça n'est pas le cas, et loin de là. Et par conséquent, il faudrait qu'un jour on se préoccupe de l'enseignement dans ce pays, davantage qu'on ne le fait aujourd'hui, et de l'enseignement tout particulièrement, non pas des arts, bon, pas que tout le monde devienne un super soliste, mais que l'on mette en contact tant de talents potentiels, parce que tous ces gosses sont extraordinairement doués. Vous les voyez, ce qu'ils inventent comme mouvement, comme le rap et toute cette danse hip-hop, etc., c'est d'une invention extraordinaire. Je suis pas convaincu que ce soit un langage porteur de grand avenir, mais c'est tout de même l'expression...
C'est d'une musicalité, d'une rythmique assez évoluée.
Il y a énormément de choses à espérer de cette efflorescence-là, et il faut la guider aussi, en tout cas, lui permettre de se trouver confronté à ce qui est, qu'on le veuille ou non, notre musique, la musique occidentale qui, depuis Gibraltar jusqu'à Moscou, et depuis 3 siècles, est notre univers sonore à nous.
Hugal, je vous remercie d'avoir passé cette heure avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci à vous de m'avoir accueilli.